Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette deuxième journée d'un programme de recherche qui s'intitule MedFilm, histoire du film médical et sanitaire en France et en Allemagne, recherche, enseignement et propagande, 1895-1960. Et nous sommes tout particulièrement heureux et fiers de pouvoir consacrer donc cette deuxième journée d'études à Éric Duvivier et son œuvre cinématographique. Et nous sommes particulièrement heureux, encore une fois, de pouvoir accueillir Éric Duvivier et son épouse ce matin, donc autour de son œuvre, dans un dialogue avec lui, en revenant sur des moments clés d'une œuvre qui, pour nous, semble absolument méconnue et en même temps fondamentale quand on regarde le film médical de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc la journée s'intitule « À la croisée de la promotion, de la formation et du film expérimental médical, Éric Duvivier et la compagnie de production Science Film 1900-2000 ». Donc cette journée va faire partie d'un diptyque autour de l'œuvre d'Éric Duvivier. Donc il y a un premier temps aujourd'hui qui est consacré plutôt à l'ensemble de la production et peut-être plus à ce qu'il faudrait appeler le film d'enseignement, le film de transmission. Et il y aura un deuxième temps qui se jouera sous la direction et la coordination de Vincent Levy à Nancy en janvier 2013. Donc rendez-vous pour un deuxième temps concernant ce travail. Deuxième remarque, c'est que dans ces journées que le groupe qui constitue MedFilm organise, nous sommes très heureux d'associer, de collaborer et de construire des partenariats avec les organisations, les institutions qui détiennent ces films, qui les ont sauvegardés pour certains, parce qu'on peut dire que c'est des films un peu éphémères, hein, donc c'est des films qui sont faits à un moment donné pour un but précis, et si personne ne s'en occupe, souvent ces films disparaissent tout simplement. Et donc, dans le cas d'Éric Duvivier, ce n'est pas de tout le cas, parce que l'œuvre a été intégralement ou quasi intégralement sauvegardée aujourd'hui. Et nous avons le plaisir d'avoir pu travailler avec le CERIMES, dont Peggy nous dira quelques mots tout à l'heure, pour la mise à disposition à nouveau de ces films, parce que les sauvegarder, c'est une chose, le pouvoir les regarder autrement qu'en 35 mm ou en 16 mm, c'en est une autre. Et je pense que si on souhaite que ces films soient vus, soient étudiés, soient utilisés encore aujourd'hui, et je pense qu'il y a moyen de le faire, eh bien, c'est fondamental que ces films soient accessibles aussi, et c'est dans ces cadres-là que le partenariat avec le CERIMES est absolument fondamental pour nous, ce qui nous amène tout naturellement d'associer le CERIMES donc à ces deux journées d'études autour d'Éric Duvivier. Et là-dessus, ben, je vais te passer la parole tout de suite, Peggy, pour dire quelques mots d'introduction.
Juste un petit mot donc sur le CERIMES, donc qui est le centre de ressources et d'informations sur les multimédias pour l'enseignement supérieur. Donc c'est un service qui est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. Donc nous sommes heureux de participer aujourd'hui donc à ces journées à MedFilm. Donc tout d'abord en donnant accès en fait au fonds audiovisuel de monsieur Éric Duvivier. Donc nous apportons également un support technique. Nous numérisons ce fonds audiovisuel que nous mettons au fur et à mesure en ligne. Donc aujourd'hui, on peut trouver déjà une centaine de fichiers vidéo qui sont en libre accès sur notre site Canalu. Aujourd'hui, donc aussi, nous participons à la captation de ces interventions qui viendront donc compléter l'œuvre de Monsieur Duvivier sur le site Canalu. Et également, donc, Monsieur Duvivier a eu la gentillesse de nous confier en fait les droits d'exploitation de son œuvre. Et donc, ce qui intéresse beaucoup aussi également le domaine artistique, ce que je voulais juste dire rapidement. Donc, ainsi, rien que sur les années 2011-2012, nous avons été contactés par un certain nombre de musées et d'instituts d'art contemporain. Donc, qui nous ont demandé pour l'accès à certains films, donc essentiellement Images du monde visionnaire et à La femme sans tête, donc Images du monde visionnaire qui est d'après un film d'après Henri Michaud et La femme sans tête d'après les collages de Max Ernst. Donc ces films ont été projetés, alors j'ai noté quelques musées et autres, donc par exemple au Palais de Tokyo à Paris, au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, au Musée d'art contemporain de Hambourg, également Musée d'art de Krems en Autriche, ensuite lors de Biennale de l'image animée à Londres, et également Institut d'art contemporain de Villeurbanne, qui a fait une exposition et, au cours de laquelle nous avons prêté également des archives papier. Voilà, donc cet après-midi, Jean-François Renac, qui a travaillé pendant de longues années, 35 ans, donc au SFRS, qui est devenu aujourd'hui le CERIMES, vous dira comment nous sommes arrivés à obtenir donc l'œuvre d'Éric Duvivier et comment voilà comment le CERIMES fonctionne, etc.
Nous sommes bien évidemment heureux de vous accueillir à l'Université Paris Diderot, qui a d'ailleurs toujours tissé des liens avec le CERIMES, donc toujours intéressant de les renouveler. Avant d'entamer une discussion avec Éric Duvivier dans quelques minutes, je vais essayer de vous faire un rappel rapide de quelle fut sa carrière. Ce rappel repose en fait sur une commande que m'avait faite le Musée national d'art moderne, donc Beaubourg, qui a acquis deux ou trois films d'Éric Duvivier de la période sans dose ou plus, je ne sais plus, et qui en dispose en particulier sur les bornes du musée, peut-être pas en permanence, mais il y a comme ça utilisation d'un certain nombre de films de Duvivier. Et à cette occasion-là, Philippe-Alain Michaud, conservateur des collections films de Beaubourg, m'avait demandé de faire une fiche sur Éric Duvivier. Et je connaissais bien entendu Éric Duvivier, j'avais déjà vu des films, en particulier ceux d'endoscopie, qui m'avaient beaucoup frappé. J'avais vu aussi un ou deux films de la Cinémathèque sans dose. Et donc j'ai fait quelques recherches comme ça, rapidement, et finalement j'ai trouvé relativement peu d'informations. Et ça m'a paru extrêmement étrange et bizarre qu'un cinéaste qui a opéré comme ça pendant 4 décennies, voire 5 décennies, entre 4 et 5 décennies, un cinéaste de cette importance qui balaye le cinéma d'enseignement, cinéma médical, mais qui va jusqu'au cinéma d'avant-garde, on aura l'occasion d'en parler peut-être moins dans cette journée, que dans la journée de Nancy, donc en janvier 2013, extrêmement étonné de trouver si peu d'informations disponibles sur Éric Duvivier. Alors, bon, mon explication était très simple, c'est que ce cinéma était considéré comme un cinéma à part, mis à part par toute une élite cinéphilie qui considère que, un, le cinéma de fiction pur est le seul qui mérite une attention soutenue, ou, à la limite, le documentaire de création. Voilà. Bon, je ne suis pas là pour faire une critique de l'histoire et de l'esthétique du cinéma tel qu'elle est pratiquée couramment, mais il se trouvait que j'avais fort peu d'informations. Donc, j'ai pris contact avec Éric Duvivier et son épouse, et je les ai rencontrés à plusieurs reprises, donc en 2008-2009, et on a commencé un peu à déblayer le terrain, essayer d'avoir une cohérence sur cette carrière, pouvoir la décrire en grande ligne, bien évidemment, parce que vous le verrez, elle est multiforme. Voilà l'aboutissement de ces premières rencontres. Pour les développements, on verra dans la journée ultérieurement. Alors, des rappels, parce qu'on ne va pas demander à Éric Duvivier de nous raconter tout en détail, mais Éric Duvivier est donc né à Lille
en 1928. Il est, vous avez le droit de me dire non à un moment donné si je me trompe. Il est donc le neveu du fameux cinéaste de fiction Julien Duvivier. Son père était un collaborateur étroit de Duvivier, donc c'était Pierre Duvivier. Il sera son assistant en particulier. Et donc très tôt, Éric Duvivier voit des tournages cinématographiques. Je l'imagine très bien à l'âge de 11-12 ans, complètement fasciné par l'atmosphère des studios qu'il fréquente, puisqu'il assiste au tournage donc de La Charrette fantôme en 1939, de Un tel père et fils en 40, et apparemment Panique, qu'il a beaucoup frappé en 46, un peu avant qu'il se lance véritablement dans la pratique du cinéma. Donc une attirance presque évidente pour le cinéma. Cependant, il ne va pas faire une école de cinéma, il choisit de faire des études en médecine. Donc il s'inscrit à la faculté de médecine après la Seconde Guerre mondiale, mais il est quand même vraiment titillé par cette atmosphère cinématographique et il va créer immédiatement, au tout début, un ciné-club qu'il va intituler Art et Science. Donc c'est un ciné-club qui, sauf erreur de ma part, fonctionnait avec le concours de Sciences et Avenir au début. Exactement, avec en particulier des projections donc au Musée de l'Homme. Et ces projections se déroulant bien, Éric Duvivier a l'idée de créer en 1947 le Centre international du film médical, c'est l'intitulé, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et il va organiser cette même année, donc on est en 47, le premier congrès international du film médical qui fera salle comble donc à la Mutualité. Donc nous sommes. Alors vous êtes en deuxième année de médecine. Voilà. Donc on est vraiment au tout début. Alors on imagine bien qu'avec un succès comme celui-là, donc un public nombreux qui vient aux séances pour voir les films et un congrès qui reçoit un très bon accueil, Éric Duvivier va être capté en quelque sorte par ce type d'activité. Donc il va faire fonctionner donc ce Centre international du film médical qui consiste à organiser des projections ponctuelles ou groupées avec un certain nombre de films appartenant au patrimoine cinématographique de l'époque. Beaucoup de films étrangers, américains, russes, italiens, etc. Des films français, finalement peu nombreux à cette époque-là. Les films de Benoît Lévy et Commandon sont difficiles à se procurer. Hein. Ils commencent à dater un peu. Et puis, il a l'idée d'alimenter ses projections avec ses propres films. Et c'est là qu'il passe à la réalisation, hein, avec un premier film. Je crois qu'on avait défini que le premier film, c'était Apicolyse appuyée par plastie musculaire dans le traitement des cavernes du sommet. Alors évidemment, quand vous avez un titre comme ça, un cinéphile de base se pose des questions. Il préfère Citizen Kane comme titre, ça sonne mieux d'emblée. Donc c'est un film qui est tourné avec le professeur Pierre Azemont. Donc, je crois qu'il était à Lille. Hein, à Lille. À partir de là, la carrière est lancée. Hein. Je crois qu'on arrive à une cinquantaine de films, vers 50, 51. Donc, c'est essentiellement, effectivement, comme il vient de le dire, des films de chirurgiens. Donc, les chirurgiens qui payent de leur poche ou avec les financements de leurs services. À l'époque, c'était peut-être plus facile que maintenant. Des films qui servent à la promotion de leur technique, qui sont présentés dans des congrès, parfois une fois, deux fois, donc effectivement une production relativement éphémère. Alors ce qui est très très intéressant, et on reviendra là-dessus également, c'est que Éric Duvivier va mettre au point un système cohérent, un modèle économique, on va dire, qui fait que sa société, qui va évoluer au fil des années, va bien fonctionner, avec des hauts et des bas comme toutes les sociétés, mais va très très bien fonctionner. Et son modèle économique repose, évidemment, sur le partenariat avec les grands pontes des hôpitaux, mais également un équipement pour tirer des copies de films. Hein, donc ça va être, on reviendra là-dessus également, le laboratoire Colorfilm, qui est en fait une sorte de filiale d'une société anglaise et qui produit des films 16 mm en couleur et qui peut tirer autant de copies qu'en demande le professionnel qui a souhaité voir naître ces films. Hein. Et donc ce système va particulièrement être fonctionnel à l'époque de Sandoz, parce que à l'époque de Sandoz, le monde du schizophrène, par exemple, premier gros succès de Sandoz de 1961, va être tiré à plusieurs dizaines de copies, peut-être 50, 100 selon d'autres, donc un nombre phénoménal de copies qui seront diffusées dans des conditions qui vous seront exposées plus tard. Donc ces projections du Centre international du film médical qui se ramifie, hein, il est international, donc il va bientôt s'installer à Genève au fur et à mesure que les activités d'Éric Duvivier de tournage vont être exigeantes. Donc ces séances ont lieu dans des grandes salles, généralement on reçoit des centaines de personnes, elles sont payantes, mais il y a tout un effet de communication qui progressivement est pris en charge par des laboratoires pharmaceutiques qui envoient des invitations, qui organisent, on imagine, un petit pot autour de ça. Donc on voit apparaître quelque chose qui est de l'ordre de la communication pharmaceutique. Je reviendrai là-dessus en fin de matinée. Alors, parmi les sujets qu'il traite, on va pas en faire la liste, mais il y a la chirurgie oculaire, la chirurgie cardiaque et l'endoscopie qui va être une de ses spécialités pratiquement jusqu'à la fin. On reviendra également là-dessus. Donc, les projections sont payantes au départ et ensuite, ce modèle économique fait que on invite les professionnels, donc les médecins, mais aussi les pharmaciens, le personnel paramédical, essentiellement les médecins, dans ces différentes présentations de films. Voilà. Alors c'est progressif, hein, c'est dans le temps, au fur et à mesure que le concept d'image de marque pour les laboratoires pharmaceutiques va prévaloir. Hein. Ça va être un phénomène sur lequel on reviendra tout à l'heure également. Alors, évidemment, la carrière d'Éric Duvivier est connue, en particulier à l'occasion de ses nombreuses expositions d'art contemporain que Peggy nous a signalé tout à l'heure, par la collaboration avec le laboratoire Sandoz. Mais il n'y a pas que ce laboratoire. Hein. Il y a également Delagrange qui jouera un rôle très important dans la carrière. Je reviendrai dessus là-dessus puisque effectivement la publicité pharmaceutique est contrôlée depuis en partie depuis l'apparition des assurances sociales, depuis la transformation de ces assurances sociales en sécurité sociale. Donc on n'a pas le droit de faire de la publicité pour des médicaments qui sont remboursés. Donc il y a un contrôle de toute la publicité qui se met en place, qui s'est amplifié surtout dans les années 70, hein, et encore récemment, hein, le poids des contraintes est considérable. Et donc les laboratoires vont jouer plutôt sur l'image de marque. Mais pas du produit, mais du laboratoire. Le laboratoire produit des films de qualité dans lequel il y a des informations et il y a, pour ce qui est de Sandoz, des expérimentations d'avant-garde, innovantes, qui séduisent un public médical. Et c'est là-dessus qu'est repose la réputation du laboratoire. Hein. Et Sandoz va très très bien le comprendre. On reviendra sur l'équipe de Sandoz. Je reviendrai sur l'équipe de Sandoz plus précisément pour expliquer un petit peu tout ça. Donc, il va collaborer à partir de 58 avec Sandoz et la grande date, c'est 1971 avec le monde du schizophrène qui, je crois, n'est pas encore sur le site de Sirimes, mais qui va pas tarder à y arriver. Donc, d'après un scénario du professeur Didier Jacques Duché, grand pédopsychiatre de l'époque, qui va faire le lien entre Sandoz et Éric Duvivier. Alors bon, je reviens pas sur les films que j'évoquais, les collaborations, bien évidemment avec Henri Michaud. On en reparlera tout à l'heure et on montrera le début du film Images du monde visionnaire. Collaboration également avec Héros, etc. Je n'insiste pas là-dessus. Je ferai simplement remarquer que dans, par exemple, Images du monde visionnaire, vous avez un certain nombre d'effets spéciaux qui ont été imaginés par Éric Duvivier. Et c'est à l'occasion d'une projection de ce film que Henri-Georges Clouzot va être séduit par ces effets spéciaux et va demander donc à Éric Duvivier d'adapter les effets spéciaux pour L'Enfer, hein, son film inachevé. Et ce qui est assez curieux, c'est que L'Enfer a été reconstitué il y a 2-3 ans et que dans le film, il n'est jamais fait mention d'Éric Duvivier, ce qui est bizarre, on va dire. Donc, j'insiste pas sur toute cette carrière qui aboutit à moi ce que je considère comme une œuvre capitale, La femme sans tête, qui date donc de 1967, donc une adaptation de Max Ernst, qui est un film assez étonnant d'essayer de reconstituer comme ça les collages de Ernst. Voilà, donc je n'insiste pas. Alors toute cette production exemplaire va prendre fin, on va dire, dans le courant des années 90, qui est une période de profonde transformation de l'industrie pharmaceutique avec des rachats, regroupements. Un bon exemple, c'est la fusion Sandoz-Ciba qui donnera naissance à Novartis. Je crois savoir que Novartis... ne s'intéresse pas beaucoup à son patrimoine cinématographique depuis pas mal d'années, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les personnes qui constituaient l'équipe de Sandoz ont pris leur retraite les uns après les autres et n'ont pas pu soutenir comme ça, à bout de bras, toute cette production qui était absolument exemplaire. Voilà, donc la collection des films d'Éric Duvivier est déposée, pour ce qui est des négatifs, si je me souviens bien, au Conservatoire régional de l'image à Nancy.
Alors, la première chose qui me semble importante, et là, autant Thierry a parlé sur la biographie, la vie et l'œuvre, autant moi je vais essayer de prendre deux moments ou deux endroits qui me semblent fondamentaux pour comprendre un tout petit peu le contexte du film documentaire médical de cette époque-là, dans lequel va cheminer l'œuvre d'Éric Duvivier. Donc, il me semble qu'un ouvrage qui est particulièrement indiqué pour ça, c'est un petit livre qui a été publié en 1947, donc au moment où on pourrait presque dire Éric Duvivier est en train de construire le début de toute son œuvre, sa carrière, etc. Il y a Jacques Shields qui publie un petit ouvrage sur le cinéma au service de l'industrie pharmaceutique. Alors c'est déjà intéressant de voir que c'est pas le cinéma industriel, c'est pas non plus la propagande pharmaceutique, etc. Mais c'est une interrogation sur cette rencontre entre le milieu de l'industrie et un certain nombre de réalisateurs. Et je pense qu'il y a un certain nombre de...
Le titre est très dangereux.
Il est très dangereux, tout à fait. Au service de... Effectivement, ça veut... C'est le point sur lequel vous insistez beaucoup, c'est-à-dire la différence entre une commande et un mécénat.
Ça, c'est capital. Et je crois que ça m'a beaucoup servi au début d'avoir cette impression, si vous voulez, pour fonctionner comme les premiers films étaient chirurgicaux. On pensait que les films chirurgicaux, certains, vous pouvez tourner à Rome, Stockholm, ou ailleurs, se tourner en une matinée. Vous voyez le coût d'un film qui se tourne en une matinée. C'est-à-dire qu'on est mal pour le public. Le côté spectaculaire d'une intervention chirurgicale grosse, comme par exemple en chirurgie oculaire. L'œil, la pupille, on est sur un écran de 5 mètres. projection 16 mm de l'époque, qui est autre chose que les meilleurs, même les meilleurs vidéos qui ont suivi. On jouait beaucoup pour mes débuts, si vous voulez, car il n'y avait pas de problème financier, si vous voulez, particulier au début. Et ce qui a entraîné le mouvement, c'est que au Congrès international du film américain, par rapport, par exemple, au public que vous avez aujourd'hui, j'avais lancé des invitations aux médecins de la région parisienne. C'était la première fois qu'on voyait des films. On parlait de la mutualité. Il y a 2000 places. Il restait 3000 médecins dehors qui voulaient rentrer avec leur carte parce que j'avais mis les invités comme membres du jury.
C'est ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû inviter plein de membres du jury.
Voilà. Je vous donne le tuyau. Je vous donne le tuyau.
Une autre époque.
Alors, c'est ce qui m'a amené à faire quelque chose qui a fonctionné comme Connaissance du Monde, c'est-à-dire dans les mêmes salles, pratiquement, comme Connaissance du Monde, dans toute la France. Il y avait quand même une centaine de projections chaque année, au tout début. Puis très vite, ce qui était comme Connaissance du Monde, avec un système d'addition et de billets payants, si vous voulez, très vite, ça a été offert, pour ainsi dire, dans le cadre du mécénat, par les laboratoires pharmaceutiques. Donc, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui ont invité à venir voir les films dont ils avaient été les mécènes. Voilà comment ça a fonctionné. Après, si vous voulez, c'est automatique. À partir du moment où vous avez, par exemple, 600 personnes à Dijon, 600 médecins à Dijon, pour imposer une invitation comme ça, les laboratoires ont suivi sans problème, ont suivi facilement. Et on a pu aborder des sujets dans toutes les spécialités.
Donc si on revient à cette petite introduction autour du cinéma et de l'industrie qui me sert de trame, le but c'est pas de dire que c'est du film industriel, mais il y a de ça. La première chose qui me semble importante, et c'est Jacques Schitt qui le souligne, c'est des films au travail, du travail. C'est-à-dire on va filmer comment on travaille dans les usines, et si on transpose ça à l'approche d'Éric Duvivier, je pense que c'est quelque chose qui qualifie aussi votre manière de filmer. Alors là, pas le travail industriel, mais le travail médical du médecin, des praticiens dans leur multiplicité, etc. Oui. Et ça pose, à mon sens, et je pense que ça serait intéressant d'en discuter avec vous, la question, comment on fait pour amener une caméra dans une salle d'opération, dans une consultation intime entre un médecin et un malade, toutes ces choses qu'on voit régulièrement dans ce qu'on peut considérer comme des essais de transmission de connaissances sous forme audiovisuelle.
Bien, ça va jouer évidemment encore plus tard avec la psychiatrie, la psychologie, la psychothérapie, c'est que je donnais toujours la parole aux médecins, aux participants. Ce ne sont pas des scénarios, c'est pas une composition, c'est pas un documentaire que l'on écrit après avoir vu une opération. C'est toujours le chirurgien qui commande lui-même. C'est toujours bon. Alors, à un certain moment, va apparaître, vous allez certainement en parler, la nécessité d'explications complémentaires, ce qui va amener le destin animé. Le schéma animé. Le destin animé va constituer la deuxième phase d'activité après la chirurgie, l'ophtalmologie, etc. Car, pratiquement, excusez-moi, les petits schémas au tableau noir que le chirurgien ou le médecin réalisait pour expliquer son opération ou pour faire l'anatomie ou la physiologie, ça va devenir le dessin animé et ça va devenir, par exemple, sur le plan du personnel, au bout de 20 années, pour moi, la partie la plus importante en nombre de personnes, le dessin animé m'a amené jusqu'à 15 personnes, ce qui était beaucoup pour l'époque, pour un film médical. Et ça a permis d'aborder à ce moment-là tous les sujets médicaux, pratiquement. Tous les sujets médicaux pouvaient utiliser le dessin animé, avec toutes les astuces. Ça, c'est une chose qui est importante, que vous n'avez peut-être pas assez indiqué.
Oui, donc c'est pour... Éric Duvivier évoque sa société, donc il y aura pour nom Art et Science, et qui deviendra Science Fine, hein, donc, dont vous avez l'intitulé, qui va effectivement employer un certain nombre de personnes, dont des techniciens du film d'animation, qui vont travailler pratiquement jusqu'à la fin de Science Film.
Hein. Absolument. Mais alors, parce que une petite erreur dans votre petit papier d'invitation et de présentation de la séance, Science Film est la société de production. Ce n'est pas Science Film qui organisait les soirées. Or, tel que vous le présentez, on a l'impression que ce sont les producteurs qui présentent leurs films, ce qui ne s'est jamais fait, ce qui fait pour la presse, pour quelques personnes, mais ce n'est pas Science Film, c'est le Centre du film médical financé et offert, pour ainsi dire, en ce qui concerne les soirées, par les laboratoires pharmaceutiques. Voilà, voilà la petite explication. Parce que, à partir du moment où on utilisait le dessin animé comme ça, on pouvait faire des films entièrement et uniquement en dessin animé. On pouvait aborder des sujets de physiologie, d'embryologie, tout ça. Un choc aussi, en dehors de l'œil, de la pupille de 5 mètres sur un écran de 5 mètres, l'endoscopie. Alors, l'endoscopie, ça a été un choc. Rentrer une caméra et montrer les images à l'intérieur du corps, ça a été un choc aussi important. Aussi important que l'utilisation du dessin animé, parce qu'on l'a utilisé finalement presque pour tous les organes. Alors, il y a eu une période de succès du film endoscopique qui a duré quand même 3-4 ans. Alors là, ça a été un succès inattendu, mais compréhensible. Compréhensible. De voir, pour les spécialistes, même ceux qui utilisaient couramment, d'apprendre. L'enseignement ne pouvait pas se faire autrement que par le film, finalement. Il n'y a que le film endoscopique qui permettait de voir comment on rentre dans tel organe, mais comment on le démontre.
La réclame pour les produits vendus sous ordonnance est interdite, mais il ne faut pas oublier que dans les années 50 et 60, il y a beaucoup de choses qui ne se vendent précisément pas sous ordonnance. C'est-à-dire,
tous les psychotropes qui arrivent au début des années 50-60, que ce soit le Valium, etc., c'est du OTC, c'est-à-dire c'est sans prescription. Donc il y avait quand même de la marge, et l'industrie suisse, par exemple, ne s'est absolument pas gênée pour produire des images, des publicités, des films de produits. Donc, je pense de dire que l'interdiction aide. C'est un élément à prendre en charge, mais je pense qu'il y a beaucoup de produits dont on aurait pu parfaitement faire des films de promotion, tout simple.
Financièrement, évidemment, ça aurait été plus rentable.
Alors, Christian, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Simplement, il faut bien distinguer le film d'enseignement médical qui a pour fonction de participer de la formation continue des médecins, même si on ne l'appelle pas comme ça à l'époque, du film publicitaire, qui est une sorte de travail à façon fait par des sociétés spécialisées et qui correspond pas du tout à l'ambition cinématographique dès le départ. Hein. Faut pas oublier que sa société, elle s'appelle Art et Science. C'est pas anodin d'avoir mis le mot art à côté du mot science dès 1947, même si il y a des contraintes, bien évidemment, puisque ce sont essentiellement des films chirurgicaux, comme vous l'avez dit au tout début, et donc on est limité dans les cadrages, parce qu'il y a des conditions d'asepsie, etc. Donc il y a véritablement un choix qui est fait. Alors, il y a du film publicitaire, je suis d'accord, mais ça ne correspond pas du tout au champ, à mon avis, que visite Éric Duvivier,
ben,
comme Jean Dallet d'ailleurs, comme Pierre Gaillard et comme Schiltz d'ailleurs, qui y a très peu touché.
Absolument, absolument.
Oui, tout à fait, c'est ce que je voulais souligner aussi un peu en parlant de ça, c'est-à-dire c'est pas qu'on pouvait pas en faire, parce que ça s'est fait quand même, mais que c'est un choix que Éric Duvivier fait très tôt et qu'il assume quasiment sur l'ensemble de sa carrière. Ce qui nous amène alors au prochain point, et en gros, je ne fais que parcourir l'ouvrage de Jacques Schiltz avec vous pour l'interpeller, parce qu'il me semble que c'est intéressant. Au fond, ce que dit Jacques Schiltz après, c'est que bah, dans ce film au service de l'industrie, bah, il y a une partie extrêmement importante qui a explosé complètement en Amérique déjà à la fin de l'entre-deux-guerres et avec la mobilisation de guerre, elle va prendre encore une ampleur plus importante. C'est des films de formation professionnelle. Alors il dit c'est l'œil qui est la caméra qui vaut et remplace des millions d'yeux, ceux des futurs spectateurs, c'est-à-dire c'est une manière de démultiplier. La guerre est passée par là, entre autres.
Figurez-vous que pendant plusieurs années, ces projections, ces soirées, ont été les seules réunions, les seules organisations de, pas de formation, il y a un autre mot, de formation professionnelle. Non, il y a un autre mot.
Formation continue.
Formation continue, c'est ça, oui. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il y avait une conférence, des conférences. Mais il y avait très peu. Tandis que ça, d'abord, ça traitait généralement 4 à 5 sujets à chaque fois. Hein, on passait généralement 4 à 5 films. Ça durait pour chacun 25 minutes, 30 minutes. Et pratiquement, ça ne remplaçait pas une conférence. Mais il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Vous expliquez aussi l'importance du public et le nombre de personnes que l'on a eues pendant plusieurs années. Parce que ça a fonctionné plusieurs années avec le système d'invitation.
Voilà. Oui, donc effectivement, c'était des projections de 4, 5 films par soirée. Donc les médecins étaient convoqué comme ça par invitation, et il venait parce qu'il n'y avait pas de sollicitation. La télé est complètement embryonnaire à cette époque-là, voire inexistante, et il n'y a pas une pression, il n'y a pas les réunions comme maintenant, donc c'est l'occasion de se retrouver pour une corporation élargie d'ailleurs aux professions paramédicales. Hein.
Absolument. Et pour bien donner un exemple, dans une projection, oui, les effets de l'image avant l'arrivée de la vidéo, tout à fait à la fin du film 16 mm, un film sur l'épilepsie avec Gaston, on s'est dit, bon, on va montrer ce que c'est que l'effet de la lumière. On va faire un effet. Figurez-vous qu'on a eu un cas d'épilepsie. Un commandant qui a fait une crise d'épilepsie juste après le générique, par ces projections. C'est une salle où il y a le grand écran possible. Je crois que c'était à Dijon. Le grand écran possible, mais certaines personnes ne font le crise d'épilepsie que dans des cas exceptionnels. Et évidemment, si vous envoyez de la lumière par intermittence en grande distance, et que vous êtes épileptique, vous faites absolument tirer. Je fais une parenthèse là parce que malgré tout ça, ça reste.
Exceptionnel. Donc c'est une expérience extrême de formation continue dans la salle.
Ouais, en même temps, ça témoigne aussi de l'effet recherché et réussi qu'on trouve dans beaucoup de vos films, c'est-à-dire quand vous êtes dans les films de psychiatrie sur la vision d'eux, même le autostop, etc. Cette idée de se placer à la place de celui qui perçoit et de recréer artificiellement, et là on va presque déjà effleurer le thème du film expérimental, c'est-à-dire ce film qui ne représente plus ou documente plus une situation donnée, mais qui cherche à mettre en évidence des expériences subjectives, intérieures, etc., qui est tellement réussi pour l'épilepsie que ça va déclencher la réaction, puisque c'est suffisamment proche pour que ça soit...
On a eu une autre, on a eu, pour le monde du schizophrène, c'était... ou à Limoges, ou une des facultés de cette région-là, de toute façon, on ne va pas s'amuser à nommer la personne, à la suite de la projection du film Le Monde du Schizophrène, l'envoi de la chaise. Le doyen, monsieur le doyen, qui envoie la chaise sur l'écran. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qui envoie la chaise sur l'écran. Bon, le film n'avait aucune provocation de ce côté-là, mais ne le cherchait en aucun cas. Bon, alors ce que j'ai fait après, justement, c'est pour ça que j'en ai fait un autre avec Clémenti. J'ai dit là, peut-être que on a, dans le monde du schizophrène, un peu créé des images. Vous voyez, on n'était pas schizophrène là. Bon. Donc, on a demandé à un schizophrène de nous écrire au fur et à mesure les textes. Et c'est le film qui s'appelle où la caméra remplace la tête du sujet.
Autant
voilà. On ne voit jamais la tête de Clémenti, sauf dans le miroir. Ça, dans le miroir. Et effectivement, le schizophrène, chaque jour, nous a envoyé son texte. Et c'est ce texte-là, dit par Clémenti, pas dit par le schizophrène, mais dit par Clémenti, ça valait bien. Ouais. Sans problème de le faire comme ça.
Pour resituer Le Monde du Schizophrène, c'est 61, donc c'est le film que j'ai évoqué, et Autoportrait d'un schizophrène, c'est 78 avec Pierre Clémenti.
Alors, La suite, c'est on a déjà eu un petit exposé dessus. On a déjà bifurqué un peu vers ça. C'est-à-dire, ce qui est particulier, à mon sens, à ces films-là, c'est pas seulement que ça soit du film industriel, du film d'enseignement, de formation professionnelle, mais c'est aussi c'est un film qui crée son propre espace de diffusion. Et là, Thierry a évoqué tout à l'heure le modèle économique. Je parlerai tout à l'heure du système du vivier, d'une certaine manière. Je pense que ça fait partie de la création et de la créativité que vous avez eu autour de vos films, c'est pas seulement de produire des films, mais c'est de créer toute une structure qui permet de les produire, de les diffuser. Donc c'est bien un dispositif qui va au-delà du film. Comment organiser une soirée qui fonctionne? Comment vous combinez?
Il n'y a pas que la réalisation. Ça a un avantage évidemment, c'est de voir un petit peu la réaction des spectateurs, de savoir ce qu'ils attendent, ce qui a plu, ce qui plaît, ce qui ne répond à une demande. Ça permet d'être plus au contact de son public. Ouais. Ça, c'est sûr.
Donc vous étiez quasiment présent à toutes les soirées qui étaient organisées dans
le cadre. Oui.
Donc ce n'est pas des films qui partaient, parce que quand on lit les dépliants de Sandoz, par exemple, autour de la film, ben, je vous en montrerai un tout à l'heure, c'est « Vous pouvez commander le film auprès de la Cinémathèque, on a l'impression que bon, ben, Éric Duvivier, il a réalisé le film, et après c'est terminé. »
Oui,
il y a...
oui. Non, ça c'est certain que c'était assez étonnant, remarqué, parce que c'est un peu le côté forain. Là, j'étais 2-3 années de forain du film médical, de se retrouver chaque soir dans une ville différente, les tournées des chanteurs actuellement. Mais on avait connaissance du monde qui passait juste devant nous, qui nous préparait le terrain, parce que la plupart du temps, les salles qu'ils avaient choisies convenaient. Mais à Paris, alors, vous ne me posez pas la question, à Paris, qu'est-ce qu'on faisait à Paris? Qu'est-ce qui se passait à Paris? Eh bien, à Paris, on projetait, les médecins étaient invités du lundi au vendredi, chaque jour, dans une salle différente, qui leur permettait de choisir la date, le lieu, par rapport à leur domicile, par rapport à leur disponibilité. Donc ça se passait dans un théâtre, souvent dans un théâtre, ça se passait à l'Institut Océanographique, ça se passait au Cercle Militaire, oui, même pas purement médical, mais le programme médical était impensable. Donc on est quand même dans une époque où les choses se trouvaient facilitées pour ça.
Puisqu'on parle du programme, est-ce que vous pouvez nous donner une idée à quoi ressemblait un programme? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait, par exemple, 2-3 films vraiment de formation d'enseignement, l'échographie, non, etc., plus quelque chose de plus ouvert, genre autoportrait d'un schizophrène, ou est-ce que c'était vraiment des soirées thématiques autour d'une seule spécialité? Non. Comment ça fonctionnait?
5 films totalement différents. Le dernier étant toujours le film de psychiatrie. Donc, finalement, le film de psychiatrie étant considéré un peu comme le, entre guillemets, le film de détente, je dis bien entre guillemets, le film de détente de la soirée, où pratiquement on sortait un petit peu du film médical traditionnel, quoi. Mais il y avait toujours 5 films différents.
Et donc c'est quelque chose que vous anticipiez déjà quand vous pensiez à faire un film psychiatrique, que ça serait un film plus de détente en fin de soirée, ou c'est, ça s'est fait comme ça?
Non, mais j'avoue que ça m'a De toute façon, ce sont les films qui m'intéressaient de très loin le plus de faire. Donc, ça me permettait de faire deux films de psychiatrie pour un film médical. Non, ça m'a...
Ça s'est fait comme ça.
Conforté, oui. Conforté, oui. Non, ça m'a permis de dire le public médical, donc, s'intéresse plus particulièrement, apporte un intérêt différent et supérieur à simplement à la connaissance et à l'information d'une formation médicale classique. Il s'intéresse plus à ce qui est psy. Il y a une raison, c'est sûr. Mais ça, c'est le spectateur qui a la raison. Hein. Ça, que vous traitez de la dépression, que vous traitez de quelquefois de sujets de psy que vous prenez, vous rentrez dans le sujet. Surtout, à chaque fois, on peut faire participer l'auteur. Vous voyez. Quand l'auteur lui-même peut
présenter.
Oui.
Pour juste rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, donc il y avait effectivement les projections que Éric Duvivier vous a décrites du Centre international du film médical, mais les laboratoires avaient tout à fait la possibilité d'acheter le nombre qu'ils voulaient de copies. La Cinémathèque Sandoz était richement dotée. Hein, dans les sous-sols de Rueil-Malmaison, où se trouvait le seuil de Sandoz, il y avait tout un espace, une cave avec des, je crois, 5000 ou 6000 bobines, dont beaucoup ont été perdues malheureusement depuis. Et ils prêtaient ces films dans les hôpitaux, par exemple, dans un service où on voulait projeter tel ou tel film, eh bien, ils fournissaient, comme ça, ils fournissaient même parfois le projecteur, le projectionniste, et donc ça, c'est quelque chose qui est à côté de l'activité propre d'Éric Duvivier.
Ça, c'est l'arrivée de la vidéo qui va tout changer. C'est, disons, le point finalement capital, parce que la projection 16 mm était une bonne formule. Pour ces réunions de 50 personnes ou même 10 personnes. Ici, par exemple, on aurait une projection 16 mm, ça serait parfait. On n'aurait pas de critique à faire. Vidéo, je ne peux pas vous dire, je n'ai encore rien vu. Mais je crains. Je crains les différentes. Je crains les différentes.
Donc, on a parcouru un premier grand pan qui me semble être un arrière-fond avant de revenir peut-être sur des questions plus détaillées. Il y a un autre fond, un autre contexte qui me semble important par rapport à l'œuvre d'Éric Duvivier. Et autant pour le premier, il me semble qu'on peut dire que... Jacques Shields, 47, la naissance du film industriel, la renaissance du film industriel en France juste après-guerre, c'est un élément que vous avez pris en marche. Vous êtes presque tombé dedans d'une certaine manière, vous l'avez façonné à votre manière. Mais je pense qu'il y a un autre élément, mouvement qui me semble absolument fondamental, qu'on pourrait presque qualifier de deuxième âge d'or du film médical, du cinéma médical. Et donc, bon, je vous ai sorti un numéro d'une revue qui incarne peut-être à partir des années 60 ce renouveau-là. Et là, je pense qu'Éric Duvivier, vous avez pleinement porté ceci. Par contre, c'est la rencontre entre médecine et cinéma, donc la revue. Il y a aussi un aspect industriel, mais je pense que c'est pas peut-être le film médical.
C'était l'occasion pour une revue médicale du fait qu'on ne pouvait pas faire de publicité dans le film. C'était l'occasion d'en faire dans une revue. C'est-à-dire que le financement, il était là, tout trouvé. Mais tenir une revue médicale régulière
paraissant chaque mois sur plusieurs pages, c'est plus difficile que de faire un film. C'est difficile. Il a, Chantenou a tenu plusieurs mois. On a essayé de l'aider au maximum. J'ai même participé, tout ça, mais c'était pas viable. C'était pas viable. Parce qu'il aurait fallu que le laboratoire pharmaceutique paye. Il aurait fallu une prospection liée au laboratoire qui avait participé au mécénat du film. Alors, on venait de dire au mécénat, pas de publicité, mais là, on vient de dire, on voudrait que vous preniez une page de publicité. Là, c'était pas facile. Mais c'était un effort. Il y avait la place pour ça. Il y avait la place pour ça. Ça a fonctionné quelques mois.
Oui, juste pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas cette revue, donc vous voyez là, le numéro 4, donc c'est Médecine Cinéma. Donc c'est une revue qui est fondée par Philippe Chanteloup, auquel Éric Duvivier vient de faire référence, et Gérard Leblanc. Gérard Leblanc qui créera ensuite la revue Cinétique, qui aura une très grande importance pour l'analyse, la connaissance du cinéma. Et donc elle est créée en 68 et elle va fonctionner jusqu'en 76, mais en déclinant. Le principal sponsor de la revue, c'est Sandoz, qui va la soutenir à bout de bras, mais elle va s'éteindre, surtout avec le départ de Gérard Leblanc, qui créera Cinétique, donc, je crois, en 1972 ou 73. Voilà. Je vous signale juste, pour ceux que ça intéresse, un entretien mené avec Gérard Leblanc, donc cofondateur de Médecine Science, dans la revue L'âge d'or, dans la revue Société et représentation, le numéro 28 de 2009. Ça s'intitule L'âge d'or du cinéma médical et l'aventure de médecine science. Médecine cinéma. Médecine science, c'est autre chose. Ça existe toujours.
Et votre place dans cette entreprise-là, comment ça s'est fait? C'est Gérard Leblanc ou Chanteloup qui sont venus vous contacter au départ en disant, ça serait bien? Parce que quand on regarde le comité de rédaction, il y a des doyens de médecine, il y a Gérard Leblanc.
Ouais. Je pense qu'il y a une revue médicale. Il n'y a pas un doyen de médecine qui refuserait un patronage. Non, le problème, vous dites justement Sandoz a particulièrement participé. C'est normal, puisque c'est là où il n'y a plus de films. Et c'est en rapport avec les films. S'il n'y avait pas de films, il n'y avait pas de revue. Et les articles étaient toujours en rapport, la plupart du temps, avec un film ou un autre.
Alors, ce qui explique très bien Gérard Leblanc, bon, c'est clairement une revue faite par deux cinéphiles, hein, deux grands cinéphiles, Gérard Leblanc, que tout le monde connaît, j'imagine, ici. Ce qu'il raconte dans cet entretien, c'est que la revue, elle fonctionne à peu près correctement jusqu'en 73, jusqu'au moment où Sandoz produit L'Ordre, avec donc Jean-Daniel Paulet comme réalisateur, et ce film fait scandale dans les milieux, le milieu médical, et à partir de ce moment-là, Sandoz va être beaucoup plus prudent. Ne pas susciter des réactions antagonistes au sein de les personnes qu'ils visent avec la Cinémathèque Sandoz.
Oui. Vous savez, comme toujours, il ne faut pas tomber dans l'accident d'autre. Si maintenant, par exemple, Sandoz, c'est quelqu'un, mais imaginer un laboratoire pharmaceutique finançant, même en même temps, un long métrage. L'ordre, c'est un long métrage. En plus, c'était un choix, si vous voulez, délibéré de type de film. Il aurait fallu que Métis Cinéma puisse intervenir et être au contraire participant au raisonnement du choix d'un sujet comme celui-là. Mais financer par mécénat un court-métrage, passer au financement d'un long métrage, c'était scabreux.
Et du 35 mm.
Oui, un long métrage grand public. En plus, grand public. Alors que, bon, sur le plan du grand public, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, parce que si j'avais pas eu l'événement de la censure sur le film Michaud, il ne serait jamais sorti grand public. Là, il est sorti dans le programme dit Hallucination. Hallucination qui comportait l'image du monde visionnaire, le film censuré, avec uniquement les extraits des visions sous drogue. Vous vous rendez compte qu'ils ont supprimé le texte dit par Michaud. En plus, c'est très rare. On a rarement entendu Michaud. C'est un écrivain très, très secret. Donc c'était malheureux de ne pas l'entendre en préambule à ses visions. D'autant plus que j'avais, comme pour mon autre travail et pour d'autres films, j'avais vraiment toujours fait très, 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 très attention à bien reproduire les visions en question. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec Michaud absolument, mais avec dans les détails, vous n'avez aucune idée. Il n'y a pas une couleur qui n'était pas contrôlée. Il fallait que tout était absolument devait correspondre à la vision qu'il avait eue à ce moment-là de tel objet, de tel paysage. Ça nous a fait voyager beaucoup, ça nous a fait bouger beaucoup. Ça a été très intéressant aussi, parce que c'était un personnage étonnant. Pratiquement, on peut dire ça, quoi. Mais là, l'ordre, là, c'était risqué.
Alors, Christian est en train de chercher un extrait, justement, d'image d'un monde visionnaire. Donc, c'est un film de 1963.
Oui. Alors, il reste... Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Dans l'exploitation commerciale, il reste que les visions. Les visions qui apparaissent sous drogue. Sans nommer, vous voyez le ridicule, sans nommer la mescaline, sans nommer le hashish, c'est numéro, je ne sais plus comment, pas produit, mais c'est un peu comme Thierry disait, produit numéro 2007, je ne sais plus ce qu'on était obligé de mettre. Mais il n'y a ni le mot drogue, ni le mot mescaline, ni le texte de Michaud qui était étonnant parce qu'il a expliqué comment ce n'était pas possible. Il a expliqué comment ce n'était pas possible.
Alors ça, c'est la version intégrale.
Lorsqu'on me proposa de faire un film sur les visions mescaliniennes, je déclarais et répétais, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. Même d'un film supérieur, fait avec des moyens beaucoup plus importants, avec tout ce qu'il faut pour une réalisation exceptionnelle, je dirais encore de ces images, et d'avance, qu'elles sont insuffisantes. Elles devraient être plus éblouissantes, plus instables, plus subtiles, plus labiles, plus insaisissables, plus oscillantes, plus tremblantes, plus martyrisantes, plus fourmillantes, infiniment plus chargées, plus intensément belles, plus affreusement colorées, plus agressives, plus idiotes, plus étranges. Quant à la vitesse, elle est telle que toutes les séquences réunies devraient tenir en 50 secondes. Là, le cinéma devient impuissant, d'autant qu'il faudrait toutes ces caractéristiques augmenter à la fois.
La version grand public ne comporte pas justement ces séquences-là. Je suis bien content que la version qu'ils utilisent, la version intégrale. Parce que c'est capital, ce que Michaud explique. La comparaison, il a choisi la mescaline qui ralentit. Il aurait fallu tout ralentir. Et le hashish, au contraire, aurait fallu multiplier par mille la vitesse. Tout ça est expliqué.
À ceux que l'important problème des visions intéresse, combien celle-ci diffère de celle du rêve, et d'une certaine manière de celle provoquée par le hashish, et par où elle rejoignent,
Le programme Hallucination était composé donc de quatre films, La perception et l'imaginaire, Images du monde visionnaire, donc version censurée du film conçu avec Henri Michaud, Concerto mécanique pour la folie, hein, dans lequel on voit un jeune acteur qui s'appelle Jacques Higelin en particulier, et La femme sans tête, donc d'après Max Ernst, qui avait été filmé un an auparavant. Hein.
Alors, La perception et l'imaginaire. Il y a l'imperception imaginaire et le côté documentaire pour expliquer le mécanisme un peu de la formation d'imaginaire. Je crois que le mieux, c'est que vous réservez un moment, si ça intéresse le public qui est là, pour voir le film de Michaud en entier, tel qu'il était présenté dans le fond aux gens de l'ascenseur, et malheureusement, tel qu'il n'a pas été diffusé au grand public, puisque dans la version publique, il n'y a que... Il n'y a que des visions.
Thank you. Thank you.
voilà. Donc c'est juste un extrait. Donc vous savez où le trouver. Il est sur Canal U. Profitons juste du film pour que vous nous racontiez un petit peu le contexte dans lequel vous avez fait la connaissance de Clouzot.
Alors, Clouzot avait été impressionné par les images et sentiments que vous allez voir. Par le trucage, si vous voulez, de la lumière et m'a demandé de m'occuper de prendre en charge les effets spéciaux du film en fer. Donc on a construit la machine en question, qui est une grande machine, une roue tournante, etc. Et le film, malheureusement, a été arrêté au bout de 8-15 jours, malheureusement. Mais ça a été utilisé dans un ou deux courts-métrages. On a arrêté cette projet dans les courts-métrages. Moi-même, j'ai fait un petit film sur le sujet qui s'appelle
Une psychose pour enfants.
Voilà. Dans lequel il y a justement ce genre d'image. Mais c'était le principal du trucage, c'était l'utilisation de la lumière en permanence.
Donc, vous avez quelques exemples, mais vous pouvez voir l'intégralité. Et effectivement, plus tard, hein, je crois, dans les années 90, vous faites une psychose en enfer qui revient sur...
C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que j'ai fait... Les essais étaient faits sur le visage de Romy Schneider. Bon. C'était un bon sujet, un bel objet. Pour faire les essais en question. Mais figurez-vous que le blanc a accepté que l'on fasse le trucage sur sa poitrine. Et bien, le blanc en question, la séquence en question, qui comporte 3-4 ans, a été volé. A été volé, coupé dans la bande. Et on n'a jamais retrouvé. Bon, alors ça peut être un coup de Clouzot, ça peut être un coup de Schneider, ça peut être un coup de X, on ne saura jamais. Peut-être un jour ça reviendra. En tout cas, ce n'est pas revenu au moment de la sortie des courts-métrages, ce qui fait que j'ai été obligé de mettre une figurante à la place dans le court-métrage, malheureusement. Mais sinon, évidemment, l'utilisation de la lumière comme ça, des possibilités considérables que Clouzot pouvait utiliser dans les décors, dans l'action, etc. Mais quand il a réutilisé ce système-là dans le film qui a été fait, ce n'est pas lui qui a tourné le film L'Enfer. Il a été refait avec d'autres, mais ce n'est pas Clouzot. Donc, ces gens-là m'ont pas contacté, n'ont pas eu à utiliser les effets spéciaux, ou alors ils les ont utilisés directement sans m'en dire rien, je ne l'ai pas vu.
Bien. Alors, donc, revenons un petit peu sur le début de votre carrière pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, vous êtes le neveu donc de Julien Duvivier.
Encore maintenant.
Oui, toujours. Comment ça se passe avec lui quand on a un oncle aussi illustre quel est votre rapport avec lui? Est-ce qu'il a eu de l'influence sur votre choix de carrière? Parce que vous allez faire médecine, donc a priori c'est pour faire médecine.
Non, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est son fils qui a fait sa médecine et moi qui ai fait le cinéma. Mais les rapports avec mon oncle sont nuls. J'en ai pratiquement pas eu. Pas eu bonjour, au revoir. Non, c'était pas un communicant. Non, ça vraiment.
Et votre père?
Ah, ça c'est différent. Lui, comme c'était son directeur de production, les problèmes n'étaient pas très artistiques. Les problèmes étaient, j'entendais beaucoup parler des problèmes de distribution, de production, de financement. Mon père était dans ce côté administratif et financier des films. Mais par contre, il jouait un rôle très important de liaison entre les vedettes et mon oncle. Il était devenu l'ami, évidemment, des vedettes qui subissaient la froideur de la direction très, très dure de mon oncle. Donc, de ce côté-là, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est ce côté-là que j'ai entendu sur lui. Mais j'ai assisté quand même à quelques tournages. En particulier dans un film où il y avait au point de vue du décor quand même un travail assez important, la charrette fantôme, et surtout des grands acteurs. Il y avait Jouvet, il y avait Freinet, tout ça, je voulais voir un petit peu comment ça se passait. J'avais été intéressé dans le film tourné à Nice, dans le studio La Victorine, qui s'appelait Panique, avec Michel Simon. Ça avait été très, très, très isolé. De l'utilisation d'une maquette de la rue principale où se passait l'action, qui raccordait avec la réalité, qui était extraordinaire. Vraiment, la maquette avait ce format-là, vous voyez. Il y avait toute la rue reconstituée en maquette. Et le raccord, un écran, c'était étonnant. Tu sais, j'ai assisté au décollage, au premier décollage à l'avion, des choses comme ça, quoi. Mais quand même, des occasions qui se sont présentées, quand même.
Et votre première caméra, quel moment vous emparez d'une caméra pour filmer des choses, ce qui va vous conduire à votre carrière?
Écoutez, alors là, le problème, c'est que en 16 mm, au départ, on était très limité. On avait la vulgaire pâté Vébo. Je dis vulgaire parce qu'elle était très diffusée, elle était grand public. De temps à autre, utilisait la caméra claire, mais on a fait beaucoup beaucoup de films avec des patriotes. Beaucoup, beaucoup. C'était des 33 minutes, 30 mètres. Finalement, bon, pour le spectateur profane, c'était pas gênant. Le principal, c'était le résultat. C'était le résultat.
Et le laboratoire de tirage, parce qu'il va jouer un grand rôle dans...
Énorme. Alors, financièrement, peut-être le deuxième rôle après l'idée du mécénat. Le deuxième rôle, vous me disiez comme question.
Ce laboratoire, donc, il va s'appeler Color Film.
Voilà, exactement. Alors ça, ça a été capital parce que en m'entendant avec un laboratoire anglais qui faisait le tirage de copies 16 mm, j'ai été voir le responsable du laboratoire en question à Londres et j'ai pu traiter avec lui l'installation à Paris du laboratoire. Et là, ça a été capital puisque on avait notre propre laboratoire. Et tous ces cinéastes, c'est l'importance que ça. En tout cas, l'importance que ça a, c'est énorme. C'est énorme puisque ça représente la reproduction du film en plusieurs copies, etc.
Et ce laboratoire, il va être intégré à votre société donc.
Non. Le laboratoire qui a reçu. Non, c'est la troisième nouvelle financière. Il a reçu une commande de centaines, si ce n'est de milliers, de copies du film du plan Marshall. Mais tout d'un coup. On était les seuls à tirer des copies de 16 mm. On fait une commande de plusieurs centaines de copies du plan Marshall. Il faut avouer que c'était évidemment une chance extraordinaire. Il en faut, parce que ça ne peut pas être uniquement ce dont je vous ai parlé avant qui a joué. Ça a joué aussi. Mais avoir son propre laboratoire de tirage, c'était un atout énorme.
Ce qui va vous permettre de financer des productions qui deviendront progressivement des coproductions avec des chirurgiens, par exemple, ou des laboratoires un petit peu plus tard.
Voilà, absolument. Et puis surtout, de tirer les copies commandées par les laboratoires, comme Stanzos, qui tirait beaucoup de copies. Ça.
Oui, par exemple, on a parlé du monde du schizophrène de 61. Donc, il y a au moins une cinquantaine de copies qui sont tirées, semble-t-il. Et donc, les tirages se font au sein du laboratoire d'Éric Duvivier. Et évidemment, ça rapporte une manne financière très importante qui lui permet ensuite de réinvestir dans des projets de plus en plus ambitieux.
Oui, exactement.
Parce que j'imagine que La femme sans tête est probablement le film qui vous a coûté le plus cher.
Oui.
Beaucoup de décors.
Oui. Enfin, on avait toute l'organisation. Oui, c'est peut-être un des budgets les plus importants.
Bon, moi, je souhaiterais peut-être revenir un instant dans la même période, à peu près, donc les débuts, sur ce centre international du film médical. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail comment il faut s'imaginer ça? Est-ce que c'est au départ, on avait parlé de ciné-club, en même temps, ça porte un titre tout à fait... institutionnel. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'il faut imaginer ça et qu'en est-il du transfert à Genève.
Mais, ouais. Au départ, c'était un ciné-club. le fait de transfert à Genève, c'était pour être international. Alors, ça s'appelait le Centre international du film médical. Et puis, le gouvernement suisse nous a pas autorisé à conserver le nom international. On a dû s'appeler le Centre du film médical. On a dû supprimer, non pas le mot drogue, mais on a dû supprimer
le mot international.
Il est devenu quoi
Il a fermé il n'y a pas longtemps, en décembre dernier. Il n'y avait plus de. D'organisation de projection possible en France. Les étrangers faisaient de plus en plus de films à caractère publicitaire. Les films financés comme nous par mécénat, mais étaient rarissimes. La plupart du temps, les productions d'étrangers étaient quasiment publicitaires. Même s'il n'était pas trop, il était quand même un peu, mais d'une manière ou d'une autre.
C'est une association de plusieurs personnes, c'était une société...
C'était, comment on pourrait dire, une couverture pour avoir un titre général de manière à organiser, si vous voulez,
la diffusion.
Pour avoir les patronages, des patrons, des loyers, des endroits où l'on passait. Et vous voyez, c'était toujours sur le patronage du doyen de la faculté. C'était aussi pour recevoir des films étrangers. On mettait de temps en temps, quand même, quelquefois, quand on recevait le traitement chirurgical de la maladie bleue des États-Unis, on le mettait au programme. Quand on recevait de Russie, de Moscou, un film qui s'appelait Les œsophages artificiels, bien que dans le texte disait qu'un infirmière qui est opéré, qu'on voit opérer avec par Eugene, par le frère professeur Eugene, était victime de son dévouement patriotique, etc. Toute une qu'on avait fait d'ailleurs, qu'il avait mis dans cet état. Il avait mis dans cet état, dans ces cas-là, on est passé. Ouais. On était quand même un peu international.
À partir de quand les laboratoires rentrent-ils véritablement en contact avec vous? Et est-ce qu'il y a des laboratoires pionniers?
Alors, aucun laboratoire pratiquement ne rentre en contact parce que ce n'est pas le laboratoire qui a l'idée, généralement, du film qui est proposé. Bon, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il faut que ce soit vraiment un responsable produit qui se dit « Ce produit est indiqué dans telle affection, ce serait bien que ce patron qui utilise ce produit fasse un film sur le sujet. » Mais ça ne vient pas automatiquement du laboratoire.
Je crois que le laboratoire de Lagrange va être un partenaire régulier, un mécène régulier pour vos films.
Absolument, aussi important que Sandoz, parce qu'ils auront l'esprit très large. Et puis alors surtout, ils seront dans un domaine qui n'est pas évident pour l'industrie pharmaceutique, qui est la psychosomatique. C'était tout, tout le domaine psychosomatique. Alors là c'était pas évident d'intéresser un laboratoire à ça. Mais comme leurs produits parallèlement, lorsqu'ils lançaient un produit, ils se trouvaient intéressés aux applications et aux ordonnances en question du produit en question. Voilà. Mais on a fait beaucoup de choses. Mais c'était assez tardif. Certains de ces films même n'auraient pas pu passer difficilement dans les sciences. J'ai vu, par exemple, vous faites allusion dans quelque part au film sur Balint, sur le groupe Balint. On peut pas passer un film d'une heure et demie dans une séance. Oui. Bon, si on passe un extrait, ça ne veut rien dire. Mais alors, là, c'est pareil, vous voyez.
Alors, il est diffusé où, ce film?
Nulle part.
Nulle part.
Nulle part. Il n'a pratiquement pas de diffusion parce que d'abord le sujet, la durée. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que même pour ce sujet-là, vous voyez, on a utilisé les textes originaux d'un groupe. C'est-à-dire, on a les acteurs qui jouent les médecins jouent exactement, on leur a demandé d'être le plus fidèle possible. Le fidèle possible aux réunions réelles. Vous voyez. L'expérience était intéressante sous cet angle-là. D'autant plus qu'on a vu beaucoup d'acteurs, ce qui ne vous étonnera pas, qui imitaient, qui vraiment, on aurait dit qu'on avait affaire au médecin en question. Mais c'était une expérience intéressante. Alors, ça, ce genre de film, on n'aurait pas pu quand même le mettre dans une séance, vous voyez. Il était trop long et trop expérimental, quoi.
Alors, il s'agit du film Sur les traces de Balint, oui. Hein, dont il sera question cet après-midi, qui est un film assez passionnant sur les groupes Balint qui se sont constitués un peu avant le tournage de ce film. On y reviendra. Moi, j'ai une question sur vos rapports. Donc, vous devenez, en quelque sorte, le grand spécialiste du cinéma médical. Vous avez un centre, qu'il soit international ou pas, mais du film médical. Et à côté, il y a le film scientifique, et donc l'Institut de la cinématographie scientifique créé par Jean Painlevé. Oui. Comment ça se passe entre les deux structures et pourquoi il y a une sorte de séparation, comme deux sœurs siamoises, entre le cinéma médical, qui est pourtant une science, quelque part, et le cinéma scientifique noble.
Parce que Painlevé s'est comporté comme mon oncle. C'est tout, simplement. Les gens qui ne veulent pas communiquer, qui disent, qui se permettent de dire dans une réunion, le film médical n'est pas un film scientifique, donc il n'a pas à rentrer dans notre institut. Vous pensez que ça a été terminé, hein. Mais c'est terminé. Que voulez-vous, ce sont les personnes, hein. Je sais pas, moi, ça paraît tellement gros, tellement énorme, tellement jaloux, vous voyez, c'est jaloux parce que nous, on avait du monde, et lui, on n'en avait pas. Bon.
Dans la même veine, il me semble que Jean-Benoît Lévy, après son exil aux États-Unis,
revient juste après la guerre et lui aussi se lance sur une entreprise internationale qui, elle, par contre, ce n'est pas le film scientifique, mais c'est plutôt le film d'enseignement. Donc ça aurait été une autre interface possible. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez? Vous n'avez pas eu de contact. Donc ça, ça se passe ailleurs. Oui.
Oui, alors donc ça c'est un des grands mystères hein, quand même de la seconde histoire du cinéma scientifique, c'est cette scission comme ça entre d'un côté le médical et une autre science qui est considérée véritablement comme filmable, alors que paradoxalement, vous savez, à l'origine du cinéma scientifique, il y a des gens comme Doyen, il y a des gens comme Jean Commandon, qui sont des médecins, des chirurgiens, et absolument. Qui ont fondé, entre autres, ce cinéma scientifique.
Vous parlez, par exemple, du film de Commandon. Comme moi, quand j'ai organisé ce congrès international, j'avais très peu de films français. J'avais mis un film de Commandon qui a eu un très gros succès. Et là, à ce moment-là, j'étais au PCB. Et ça touchait directement à la fois l'enseignement, l'information et le côté un peu spectaculaire de l'image, c'est sûr. Là, c'était le micro-cinéma. Le micro-cinéma était aussi un domaine intéressant.
Alors, Christian, à moins que tu aies une question, moi je voudrais faire un bond dans le temps et parler d'une expérience qu'on n'a pas abordée jusqu'à présent, qui est celle de la télévision médicale. Parce que figurez-vous qu'Éric Duvivier va mettre au point un système de télévision. Donc on est au début des années 70. Ça s'appelait dans un premier temps la quatrième chaîne, jusqu'à ce que l'ORTF râle contre ça. Hein, alors je vous rappelle juste le contexte. On est dans cette période et il y a un monopole de la télévision. Donc logiquement, on n'a pas le droit d'émettre auprès d'un public, à moins qu'on utilise des réseaux, on va dire, câblés. Donc en circuit interne, ça c'est autorisé, mais vous allez mettre en hertzien carrément.
Mais le terme de quatrième chaîne est refusé. Et, par contre, le terme de télévision médicale est accepté, mais vous comprenez, pour le médecin. La différence avec nos soirées, où ils choisissaient à Paris, par exemple, la salle, le lieu, la date, etc. Là, ils nous avaient mis le samedi matin. Le samedi matin, à 8h, je crois. Bon. C'est eux qui choisissent les horaires, qui programment. Comment voulez-vous que le médecin s'organise pour que systématiquement il regarde l'émission le samedi uniquement, le samedi à 9h ou le... Bon. Par ailleurs, il y avait un problème de financement puisqu'on n'avait pas le droit à la publicité. Bon. Alors, le mécénat pouvait jouer à la rigueur. Mais le nombre de publics, de personnes que ça représentait, n'était pas suffisamment valable pour convaincre un laboratoire pharmaceutique. Ça a fonctionné un an, deux ans. En Suisse, ça a marché parce qu'il y avait une télévision privée qui l'a pris. Alors là, ça a fonctionné trois ans. Mais c'est pareil. Ce qui était très gênant, c'était l'obligation de passer tel jour, tel heure.
Oui, alors une question dans le public, mais il faut le micro.
France.
Non,
c'était juste pour demander si vous pouvez nous spécifier le titre en fait, des émissions que vous parliez.
Donc, on vous demande quel est le titre des émissions que vous prépariez pour donc la télévision. Hein.
TVM, télévision médicale. TVM.
Oui, c'était Télévis, hein. Télévis, je crois. Télévision.
Non, non, télévision.
Parce que, en fait, il y a eu deux périodes. Il y a eu le moment où vous alliez avec un camion régie. Voilà, il y a deux temps. Il y a cette tentative d'envoyer un camion régie. On est au début des années 70. Donc, un camion régie qui s'installe dans un CHU, hein, puisque ça s'appelle comme ça, et qui émet dans les différents services. Alors, on imagine toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir autour de ça. Et puis, il y a un deuxième temps dans les années 80, où vous allez faire des émissions d'abord sur France 3, FR3 à l'époque, puis sur M6, puis ensuite sur la télévision suisse romande, je crois, si je me souviens.
Voilà, exactement, c'est ça. C'est exactement ça.
Voilà.
C'est pas de bons souvenirs.
Oui.
C'est pas... Non.
Bon, on n'en parle pas.
Non, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Même en Suisse, où pourtant, ils nous ont facilité les choses. On avait beaucoup de facilité, puisque c'était une télévision privée. Après, il faut prouver au laboratoire pharmaceutique que le médecin l'a vu. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une présence dans une salle où les gens se déplacent devant un écran, etc. Oui. C'est comme ça. Les gens pouvaient recevoir une cassette. Alors, les gens souvent demandaient la cassette de l'émission. Mais est-ce qu'ils la regardaient? J'en sais rien. C'est très flou. C'est pas. Et puis, financièrement, c'est pas convaincant. Pour les laboratoires, c'est pas convaincant.
Mais au-delà de la réussite ou de la non-réussite de ces expériences, ce qu'il faut noter, c'est l'expérience en elle-même et le côté innovant qu'il pouvait y avoir à faire ça.
Oui. Oui, parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? On se demande pourquoi on n'a pas régulièrement des émissions comme celle-là, comme nos séances, c'est-à-dire avec plusieurs films réservés au corps médical, tel jour, tel heure, etc. Oui, on pourrait très bien. On pourrait très bien. Mais pour le moment, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien. Il y a beaucoup d'émissions médicales grand public. C'est rentré dans les mœurs. Alors, tout d'un coup, alors c'est par exemple le foie qui est à la mode. C'est le foie. Alors pendant une semaine, on va avoir des émissions sur le foie. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas organisé. Hein. Voilà. C'est pas organisé. Pour le moment. Ça sera peut-être un jour.
Voilà, on va poser encore des questions dans le public parce qu'il fait vraiment très très chaud. Donc nous avons le plaisir d'avoir le professeur Jean Deleuze de la Revue du Praticien qui est présent et qui va vous poser une question.
Oui, je voulais vous poser une question sur les scénarios. Parce que donc, vous faisiez ces films, vous faisiez appel à des patrons, des grands patrons, des conseillers scientifiques, mais à l'époque, les gens avaient plus l'habitude du cinéma en quelque sorte. Donc il fallait quand même construire un scénario. Donc comment ça se passait?
La plupart des sujets, un début et une fin, vous ne pouvez pas commencer une opération chirurgicale par la fin. C'est vraiment le... Bon, il fallait poser des questions, c'est d'accord. Il fallait quand même rentrer dans le sujet. Il fallait discuter quand même un peu avec l'auteur. Surtout quand il s'agissait de création, d'animation, dessin animé, tout ça, il fallait bien. Mais on était toujours très près de l'auteur. Même si ça pouvait avoir des inconvénients. Ça, c'est certain, ça peut avoir des inconvénients parce que un auteur, une auteure influence, le dessinateur, vous comprenez. Alors que le dessinateur aimerait bien, quelquefois, pouvoir aller un peu plus loin, quoi.
Mais scénario, il y a eu quand même, puisque dans les archives papier que vous avez aussi laissées en partie au CERIMES et au CRI, on voit bien des scénarios écrits, c'est-à-dire scénario, il y a les textes, des paroles, des films. Ouais. Alors c'est pas un scénario dans le sens où il y a vraiment les scènes, etc. Donc là, ça se fait comme ça se construit. Mais l'exposé scientifique du contenu est quand même extrêmement rédigé, puisque...
Oui, j'attends que ça parte toujours de l'intervention de l'auteur, du patron, quoi. Bon. Par contre, au scénario, il y avait nécessité, c'était souvent dans les dessins animés. Dans les dessins animés, il fallait quand même s'adapter un petit peu au dessin pour éviter des impossibilités. Ça dépend de ce que je veux.
Bien. Eh bien, comme il fait très chaud, on va vous laisser un petit peu tranquille. Vous allez vous mettre tranquillement dans le public. Je vais un peu conclure cette matinée en avançant quelques pistes. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous, ce qui n'était pas évident. Vous habitez quand même à quelques kilomètres. Merci beaucoup.